France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
On en parle beaucoup parce qu'elle est dans l'actualité depuis un bout de temps, dans la rue, à l'Assemblée, modifiée, suspendue. La retraite est, semble-t-il, l'un de nos sujets de conversation préférés. Mais de là à la préparer correctement, il y a un pas. On a même un peu tous du mal à rentrer dans le dur, souvent parce qu'on refuse l'obstacle. Et quand on s'y prend trop tard, il y a toujours un papier ou une justification qui manque. Le petit boulot en début de carrière, la vérification que le service militaire a bien été compté, sans compter tout le reste. Les périodes de chômage, les carrières hachées, les périodes de congés familiales, les congés formation, les multi employeurs, parfois les très multi-employeurs pour ceux qui travaillent dans les métiers d'aide à la personne, les boîtes qui ferment et donc les périodes de congés formation, les CDD empilés, les périodes de chômage, bien sûr, les carrières sont plus variées que jamais, avec peut-être donc un point commun à beaucoup de Français, la complémentaire de l'Agirc Arrco, la complémentaire des salariés du privé. Du privé certes, mais 96% des Français ont cotisé ou cotisent à l'Agirc Arrco. Pour certains, la somme que vous toucherez venant de la caisse complémentaire est de 50 à 60% votre retraite. 14 millions de retraités perçoivent chaque mois une allocation de retraite complémentaire. Ça vaut le coup de bien mettre tout ça dans l'ordre. Ce que fait l'Agirc Arrco depuis des années, elle ouvre ses porte toute une semaine. Cette année particulièrement, elle cible les carrières qui sont plus complexes, celles qui nécessitent un coup de main pour y voir clair. Elle vous incite à faire le point assez tôt, entre 50 et 55 ans, refaire le point 5 ou 6 mois avant la date de départ pour être sûr que tout va bien. Et aussi, l'une des choses importantes, c'est d'avoir à côté de soi le patron de l'Agirc Arrco, de l'avoir sous le bras. Comme ça, c'est encore plus simple comme ça pour vos questions. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici, François-Xavier Céléré.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Eh bien écoutez, on est ravis, c'est du temps que vous allez passer avec nous, c'est le téléphone sonne, et soyez tous les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Allez, le premier c'est vous Benoît, vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir,
on vous écoute,
merci
Benoît.
De m'accueillir à votre antenne. Alors moi je commence à m'intéresser à ma retraite, j'ai 48 ans et j'ai eu plusieurs vies professionnelles et puis je commence à comprendre d'abord que je ne sais pas encore quand je serai à la retraite et puis dans combien de temps je pourrai profiter de mon temps pour moi entièrement. Et je commence à m'intéresser à ce que je pourrais toucher et puis j'ai eu des vies professionnelles dans le privé en tant qu'ingénieur, j'ai eu des vies professionnelles dans le public et dans la fonction territoriale et puis j'ai eu plusieurs fois des périodes de chômage. Non choisi, donc j'ai fini un contrat et j'ai effectivement touché du chômage et puis j'ai eu un licenciement économique, ce qui a également généré une période pendant laquelle j'avais pas de salaire mais j'avais du chômage. La question que je me pose c'est comment est-ce que toutes ces choses vont s'intégrer aujourd'hui, comment le public et le privé vont se combiner et de quelle manière, et est-ce qu'effectivement quand je suis au chômage je cotise à la retraite, si c'est le bon terme. Mm-hmm. Voilà, c'est des interrogations qui me viennent aujourd'hui quand je me prépare.
Et ben on va essayer d'y répondre. François-Xavier Céléré, vous êtes là pour ça. Je voudrais dire une chose, c'est intéressant parce que la carrière de Benoît ressemble à tellement de carrières, du privé, du public, des périodes de chômage, il peut encore créer sa boîte, ce sera encore une troisième forme, mm-hmm. Mais il y a beaucoup de carrières qui ressemblent à ça. Qu'est-ce qu'on répond à Benoît sur ces périodes de chômage?
Effectivement, bonsoir monsieur. Effectivement, là, je crois que votre parcours professionnel, c'est l'image des Français d'aujourd'hui. On estime que les personnes durant leur vie professionnelle, les Français pendant leur vie professionnelle, vont avoir plusieurs employeurs, plusieurs statuts et vont alterner potentiellement des périodes de chômage. Alors déjà un point important. À l'Agirc Arrco, la période de chômage, dès lors qu'elle a été indemnisée, donc j'aurais envie de vous poser la question, est-ce que ça correspond à des périodes de chômage indemnisées, vous donne les mêmes droits à retraite que lorsque vous étiez en activité professionnelle classique. Donc cette période de chômage indemnisé n'a pas d'impact sur vos droits retraite. Hein, c'est une décision des partenaires sociaux qui date des années 70, je pense aussi pour le chômage partiel, au moment du Covid. Hein, plus de 9 millions de Français ont connu des périodes de chômage partiel, mm-hmm. Et ça n'a pas eu d'impact sur leurs droits retraite. Ça a été un choix qui a été fait. Il y a des cotisations, mais on ne part pas du montant de la cotisation.
Ça a eu un impact sur vous, l'Agirc Arrco.
Ça a eu un impact sur nous, on pourra y venir, mais on est là pour ça. Et on est là pour accompagner nos concitoyens, nos assurés. Et vous l'avez dit vous-même, 96% des Français, à un moment ou un autre de leur vie, vont cotiser à l'Agirc Arrco. Et donc, ça n'aura pas d'impact. Mais pour répondre précisément à Benoît, on a développé avec les autres régimes de retraite des outils pour permettre à chacun d'entre nous de faire le point sur sa situation. Donc, si Benoît ne le connaît pas, il y a deux outils que j'aurais spontanément envie de lui proposer et que je peux proposer à tous vos auditeurs. Pour ceux qui sont à l'aise avec les applications mobiles et le numérique, il y a une application mobile qui s'appelle Mon Compte Retraite, qui a été développée par la GIRC-ARRCO pour tous les régimes de retraite, qui a été téléchargée 13 millions de fois, plus qu'Instagram et TikTok, donc vous voyez l'élément, parce qu'elle permet, grâce au numéro de sécurité sociale de chacun d'entre nous, de faire le point sur tous ses droits à retraite, quel que soit son parcours professionnel.
Et je pense que c'était l'un des sous-textes de la question de Benoît, en fait, c'est comment vous faites, la GIRC-ARRCO, non mais sérieusement, pour ramener tout ça au même endroit, en fait.
Ça fait 20 ans qu'avec les autres régimes de retraite, on travaille pour mettre en commun nos données, nos données, et vous les restituer. Si vous vous souvenez, il y a 20 ans, on envoyait un courrier tous les 5 ans à chacun d'entre nous. Et puis progressivement, on a suivi l'évolution des habitudes et des usages. Et donc quand on a lancé l'application mobile, il y a 6-7 ans, un certain nombre de personnes nous avaient dit « mais jamais les Français n'iront voir leur retraite sur une application mobile ». Et on voit que nos habitudes et nos usages ont changé. Et aujourd'hui, cette application permettra à Benoît, comme à tout le monde, de faire le point sur ses droits à retraite, tout régime de retraite confondu, et y compris pour ceux qui ont un contrat d'épargne retraite.
Et y compris la Sécu, ce que je veux dire,
c'est compris la Sécu, voilà, parce que c'est tous les régimes.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais alors est-ce que je commence par regarder mon régime général, et puis ensuite je vais voir la complémentaire? Non, tout est dans le même paquet.
Tout est dedans, et elle permettra de répondre à la question de Benoît, comme de tout le monde. En retraite, c'est quand et combien? Nous sommes tous des êtres uniques. Mais on se pose tous un peu la même question.
Ben oui.
Combien j'aurai quand je partirai en retraite? Quand je partirai en retraite? Et quand est-ce que je pourrai partir? Et donc, les outils de simulation, qu'il trouvera dans l'application mobile, mais qu'il trouvera aussi sur notre site internet, lui permettront de faire le point déjà sur tous les droits à retraite qu'il a acquis. Et puis, ils lui permettront aussi, si, comme vous l'avez évoqué, il veut créer son entreprise demain, il veut créer sa boîte, il pourra aussi mesurer l'impact de ce choix de vie professionnel, personnel, sur ses futurs droits à retraite, pour pouvoir faire ainsi un choix en toute connaissance de cause.
Est-ce que ça a un sens d'aller sur mon compte retraite à 40 ans, par exemple, sachant, je ne voudrais pas faire peur aux gens qui nous écoutent, mais qu'il y aura sûrement d'autres lois et d'autres réformes dans les 20-25 ans qui viennent avant l'âge de la retraite? Est-ce que ça a du sens? Ou est-ce que c'est vraiment un outil pour les vieux 50-55 et puis 60, on n'en parle même pas, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça donne même une indication, en fait?
Alors, ça a du sens, et je vais vous parler de ma petite. Ma petite sœur, il y a quelques années, me pose la question à 40 ans, combien j'aurai en retraite? Et je lui dis, mais pourquoi tu me poses la question?
Vous venez de donner l'âge de votre sœur, c'est mal.
Et donc, elle faisait un emprunt immobilier. Elle était en train de calculer la durée de son emprunt et le montant de ses mensualités. Et donc, c'est vrai qu'à 40 ans, on a encore une longue période de sa vie devant soi. Mais au moins, ça permettait d'avoir un ordre d'idées. Et vous voyez, donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, ce simulateur, il est utile à tout âge, en fonction de votre besoin, de votre attente.
Allez, il y a beaucoup de monde au standard, allons-y, voici Emmanuel. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
On vous écoute Emmanuel.
Alors moi j'ai 53 ans, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans l'agriculture l'été, pendant 2 mois et pendant 4 ans, 8 mois en tout, et j'ai été déclaré à l'époque. Et j'ai eu la surprise de voir dans mon compte retraite que ça n'avait pas été comptabilisé, c'est-à-dire ça apparaît, mais le résultat c'est 0 trimestre. Et je voulais savoir si c'était une erreur, c'est-à-dire si je devais faire une réclamation, ou si c'était effectivement le mode de calcul qui voulait que ce temps travaillé ne soit pas pris en compte.
Merci beaucoup Emmanuel. François-Xavier Celloré.
Alors, pour vous répondre à votre question, pour qu'une période soit prise en compte, il y a deux éléments. À la GIRC-ARRCO, 1 euro de cotisation, dès le premier euro de cotisation, vous vous ouvrez 1 euro de droit. Donc ça, c'est déjà un élément, il n'y a pas de borne minimale. Là, ce que je comprends quand vous évoquez les trimestres, c'est ce qu'on appelle les trimestres au régime général de sécurité sociale. Et là, pour valider un trimestre, il faut au moins 150 heures SMIC. Donc si les jobs d'été, c'est ça que je comprends que vous avez fait, vous ont donné une rémunération cotisée d'au moins 150 heures SMIC, normalement, elle devrait figurer.
Si ça n'est pas le cas... Elle figure, mais il y a marqué zéro en face.
Alors, c'est ça qu'il faut. Il faudrait qu'on regarde, et c'est en l'occurrence plus nos collègues du régime général. Mais ce que je pourrais vous proposer, puisque nous, on propose chaque année 400 000 rendez-vous partout en France, dans plus de 600 lieux. Si vous souhaitez, c'est l'objectif qu'on a cette semaine avec les rendez-vous de la retraite, où on veut faire un point sur la carrière. Mm-hmm. Pour Emmanuel, mais comme pour tous ceux qui le veulent, on propose des rendez-vous gratuits et personnalisés dans l'un des 600 lieux à votre convenance, pour faire le point sur qu'est-ce qu'on sait déjà sur vous. Est-ce que toutes les périodes de travail que vous mentionnez...
Mais ça se corrige tout ça, en fait.
Ça se corrige s'il a...
C'est-à-dire, est-ce que c'est possible qu'il y ait une erreur, tout simplement?
C'est tout à fait possible, et c'est l'intérêt. C'est sûr, souvent on dit, gardez vos bulletins de salaire, on ira regarder vos bulletins de salaire, on regardera le montant des cotisations qui a été déclaré, et donc retenez, c'est pour cela qu'on fait ces opérations-là, pour dire aux personnes, n'attendez pas le dernier moment pour faire le point sur votre future retraite.
Je vous demande si on peut le modifier, parce que j'ai un mail de Catherine sous les yeux qui dit, à l'âge de 40 ans, j'ai reçu le premier courrier sur mes droits à la retraite avec une grosse erreur. Il manquait 6 ans d'années de travail dans une collectivité territoriale dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans. L'expéditeur m'a renvoyé vers l'employeur. Je l'ai signalé à l'employeur à 40 ans, à 45, à 50, à 51, à 52. Et l'erreur n'est toujours pas rectifiée. Qu'est-ce que je fais ?
Alors là, en l'occurrence, c'est vrai que pour quand on est dans le système public et pour un employeur classique, effectivement, là, ça relève d'un autre régime de retraite. L'objectif derrière, c'est que nous aussi, on travaille avec tous les régimes de retraite. Donc, si une personne n'a pas réussi à pouvoir obtenir la régularisation auprès de son employeur, comme on raisonne dans l'intérêt des personnes, bah, que votre auditrice n'hésite pas non plus à prendre contact avec nous, on verra si on peut intervenir auprès du régime de retraite en question et auprès de l'employeur en question pour que ces données-là puissent être recensées correctement. Et surtout, déjà dans l'outil de simulation, elle pourra déjà mesurer l'impact de ces années en question sur le montant de sa future retraite.
Annabelle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez être la porte-parole de beaucoup d'auditeurs qui ont une question similaire à la vôtre, Annabelle. On vous écoute.
Alors, donc moi j'ai 43 ans, j'ai travaillé juste après mes études au Royaume-Uni, donc de 2008 à 2010, donc dans la période avant le Brexit évidemment. Je ne me suis pas occupée jusqu'à présent de récupérer finalement les trimestres cotisés à l'époque, même si je sais qu'on avait donc un accord bipartite avec le Royaume-Uni sur ces années-là, avec la reconnaissance bilatérale des trimestres cotisés. Voilà. Comment m'y prendre ?
Merci, Annabelle. Comment doit s'y prendre, Annabelle ? François-Xavier Celleret.
Alors, pour Annabelle, en l'occurrence, les cotisations qui ont eu lieu en Grande-Bretagne seront versées par la Grande-Bretagne le moment venu, le système dans lequel elle a cotisé. C'est le principe d'un système en répartition, c'est le régime dans lequel vous avez cotisé qui vous versera les cotisations. Ça, c'est peut-être le premier élément pour expliquer ce mécanisme-là. Simplement, au moment où elle partira en retraite en France, on tiendra compte des deux années, enfin, ou même des trois années, si je compte bien, de 2008 à 2010, de la durée, pour savoir quelle a été sa durée de cotisation totale. Donc, elle peut d'ores et déjà, aujourd'hui, essayer d'avoir une attestation du système anglais dans lequel elle a cotisé. Donc ça, c'est un premier élément. Ça lui permettra d'avoir cette attestation-là. Mais le deuxième élément, il faut retenir qu'au le moment venu, il faudra qu'elle fasse la démarche. Pour faciliter la tâche d'Annabelle, et pour faciliter la tâche de tous vos auditeurs qui ont eu des périodes de travail en Europe, nous sommes en train de travailler avec les autres pays de l'Union européenne pour bâtir ce qu'on appelle un droit de l'information européen. Parce qu'on a effectivement beaucoup de travailleurs transfrontaliers,
alors, par exemple,
beaucoup de personnes qui ont pu passer...
Quand on est transfrontalier, on garde, on est toujours à la sécu de notre côté, etc. Donc c'est plus facile,
exactement,
j'imagine.
Exactement, et effectivement, ou quand on l'a été, mais qu'on a quitté ce système-là. Et donc on travaille avec les autres pays de l'Union européenne, pour pouvoir, les autres pays d'Europe, pour pouvoir bâtir un droit à l'information européen, pour que 20 ans après, 25 ans après, Annabelle, comme pour tous ceux qui ont pu cotiser, travailler et cotiser dans un autre pays, ils puissent faire le point sur les droits qu'ils ont acquis, et savoir ensuite comment faire valoir ces droits. C'est vrai qu'on a lancé cette démarche en France il y a une vingtaine d'années, d'autres pays l'ont fait, comme la Belgique, mais d'autres pays de l'Europe ne l'ont pas encore fait, et donc on travaille avec ces pays d'Europe.
Comme pour qui, par exemple,
on travaille beaucoup avec les Allemands, qui n'ont pas encore un droit à l'information nationale, on travaille avec les Hollandais, on va travailler aussi avec l'Italie.
C'est intéressant parce que l'Allemagne, c'est très frontalier, donc quand on a travaillé 10 ans en Allemagne, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour aller récupérer...
Aujourd'hui, quand on va travailler en Allemagne, on peut solliciter le régime dans lequel on a cotisé. Mais il y a aujourd'hui, à ma connaissance en Allemagne, il n'y a pas encore un droit à l'information nationale, où toute personne sait... En trois clics, quels sont les droits qu'elle a obtenus. Les Allemands nous ont dit, il y a une bonne année, qu'il voulait se doter d'un droit, d'une base de données informatisée au niveau national, qui permettra à tous ceux qui ont travaillé en Allemagne, et donc par l'interconnexion des systèmes d'information, qui permettra à tous vos auditeurs, à tous nos concitoyens qui ont pu travailler dans un pays de l'Union européenne, d'ici quelques années, de faire, je dirais, d'accéder facilement au montant de leurs droits, et après à la démarche qui ira bien.
Comment ça se passe quand on est hors Union européenne ?
Alors, quand on est hors Union européenne, ce système-là...
Est-ce que c'est un pays, un problème, en gros ou...
C'est, en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir... Ce qui est vrai, c'est que chaque pays a son propre système de retraite. Alors, je ne sais pas si c'est un pays, un problème, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut absolument, pour ceux de vos auditeurs qui ont travaillé dans un pays à l'étranger, pouvoir avoir conservé les périodes, il y a les attestations de salaire qui vont bien, et pouvoir effectivement obtenir au moins une reconnaissance de cette durée de cotisation suffisamment à l'avance pour ne pas attendre le dernier moment. Et c'est tout l'intérêt des entretiens qu'on évoque là. On ne pourra pas faire à la place des systèmes de retraite étrangers, mais au moins de pouvoir anticiper ces démarches-là pour éviter que la question se pose au dernier moment.
Et les faire traduire, non, je dis ça sans plaisanter.
Et les faire traduire, ça dépend des cas. Il y a des cas où on est sur des modèles. Voilà. On a effectivement, vous voyez, on recevait des Japonais il y a quelques jours à l'Agirc-Arrco.
Typiquement, par exemple.
Et effectivement, on échangeait sur les bonnes pratiques de droit à l'information. Au Japon, par exemple, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'effectivement, ils mettent en place un tableau de bord national pour pouvoir consolider tous les droits à retraite.
Voici Clément qui est avec nous. Bonsoir Clément.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Clément.
Bonsoir. Merci déjà pour la qualité de vos émissions. Alors moi ici, je voulais raconter un petit peu mon profil. Moi j'ai 33 ans, j'ai travaillé à 16 ans, j'ai fait des petits boulots l'été, puis ensuite j'ai fait 5 ans d'alternance. Et donc pendant l'alternance, il y a un dispositif qui permet, à la suite de l'alternance, de pouvoir racheter des trimestres qui sont, comme le disait votre invité, ouverts mais pas complets. Avec à moitié prix, il me semble, les 10 années après l'alternance. Enfin bon, c'est un petit peu flou. En tout cas, moi, je m'y suis intéressé, je voulais les racheter. Et donc, quand j'ai pris rendez-vous, c'était un peu compliqué, avec la caisse à côté de chez moi, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit que j'avais 30 ans d'avance, finalement, sur la question. Et donc, voilà. J'étais un petit peu dépité, je suis reparti avec pas beaucoup d'informations, il fallait que c'était assez sombre, il fallait que j'envoie des courriers, voilà, et du coup aujourd'hui j'ai laissé tomber, je trouve ça un petit peu dommage. Moi aujourd'hui je me suis beaucoup investi dans la rue pour défendre le système de retraite, je lui fais confiance, j'ai envie d'y croire, comme beaucoup de Français, beaucoup de jeunes, et je voudrais que ce soit pas juste, quelque chose pour les personnes en fin de carrière de s'intéresser à sa retraite, moi je le prends assez tôt. Et voilà.
Alors très très tôt, hein, 33 ans Clément, mais il a raison Clément, merci pour votre appel Clément. François-Xavier Solera, d'abord, évidemment qu'il faut s'en occuper, et pas 3 mois avant. Ce que dit Clément aussi en creux, que je trouve vraiment intéressant, c'est: attendez, j'ai cette possibilité, on me l'a offerte, quand on me dit que j'arrive 30 ans plus tôt, ça sous-entend que peut-être quand j'aurai l'âge de la retraite, en fait, ce sera plus valable, ce qu'on m'a raconté.
Alors, vous avez raison si la conclusion est celle-là. En fait, ce que je pense, alors, vous avez raison.
Donc, dis-moi, laissez-moi le sécuriser, en fait.
Non, mais bien sûr. Non, mais alors, ça, et là, première chose, je pense que là où Clément a raison, c'est que s'il veut faire reconnaître ses trimestres complets, il a intérêt à le faire maintenant, y compris parce que sur un plan économique, racheter un trimestre à 33 ans, ça coûte moins cher que de racheter un trimestre à 60 ans.
Ben
c'est déjà un élément. Après, tout le monde ne fait pas ce choix-là sur
On y reviendra sur le rachat, mais finissons sur Clément.
Le deuxième élément, là où vous avez mille fois raison, et ça, c'est un peu l'une de nos antiennes à l'Agirc-Arrco avec les partenaires sociaux, c'est de dire la confiance ne se décrète pas. La confiance dans l'avenir et dans le collectif, elle doit se prouver chaque jour par la qualité de service individuel qu'on délivre à chacun d'entre nous. C'est pour ça que, quand j'entends la remarque de Clément, je partage la même volonté que Clément, c'est que nous puissions apporter à chacun d'entre nous un service à tout âge, adapté aux besoins et aux usages de chacun. Et donc, alors, les rachats de trimestres, c'est pas l'Agirc-Arrco, hein, c'est nos collègues du régime général, mais là encore, comme je l'ai dit... tout à l'heure, je crois que c'était pour Emmanuel et pour Benoît, si nous pouvons vous aider en faisant le point avec vous à l'occasion des entretiens information retraite et de vous accompagner dans ce travail de validation, on sera heureux de le faire. Pour vous aider, parce que effectivement, si on veut donner confiance dans le système de retraite en répartition, il faut en donner des preuves concrètes, des preuves tangibles, des preuves personnalisées.
Mais on est d'accord que en effet, si il est autorisé, peut-être même encouragé aujourd'hui à racheter une partie des trimestres d'apprentissage de Clément, il y a zéro chance pour qu'il ait une mauvaise surprise dans 20 ans, dans 25 ans, où on lui dira non mais ça, ça marche plus, c'est pas comme ça, vos trucs ne sont pas comptabilisés. On est d'accord qu'il y a zéro chance pour qu'on lui dise ça.
Il y a zéro chance, mais il faut avoir à l'esprit pourquoi la réponse spontanée qu'il a entendue. C'est que parfois les personnes qui rachètent des trimestres, quand il y a eu des réformes des retraites sur l'âge,
ouais,
avaient racheté ces trimestres en disant « je veux partir plus tôt en rachetant ces trimestres ».
Exactement.
Et puis au moment où arrivaient des mesures sur « on remontait l'âge », finalement la valeur ajoutée économique de ces trimestres disparaissait.
Alors que ça coûte très cher.
Voilà. Et donc des personnes disaient « ah mais je les ai rachetés, mais en fait ça ne m'est pas utile pour mon calcul de départ retraite, donc j'en demande le remboursement
». C'est possible ça
donc, et oui, donc c'était aussi un des points qui était venu. Et donc c'est pour cela que et donc c'est là où l'intérêt économique du rachat de trimestre peut varier en fonction du profil, j'allais dire de carrière, du parcours professionnel de chacun d'entre nous, et des paramètres applicables quand Clément, c'est pour dans 30 ans, si je devais résumer. Ça peut expliquer la réaction et la réponse qu'il a eue, ça a été de se dire, il a raison de le faire parce que c'est mieux de valider des trimestres complets, mais est-ce que ces trimestres complets lui seront utiles dans 30 ans? Il n'en est pas certain, ça dépendra des paramètres applicables à ce moment-là.
Alors j'ai deux questions là-dessus, parce que sur le rachat des trimestres, il y a beaucoup d'idées aussi qu'il faut racheter ces trimestres d'études, effectivement. Est-ce qu'on a réellement intérêt à le faire? Et surtout, c'est pour ça que la question de Clément était intéressante, est-ce qu'il y a une date limite avant que ça devienne... moi par exemple, est-ce que ça aurait eu un sens ou est-ce que ça ne va pas me ruiner intégralement de racheter ces 5 ans d'études-là par exemple? Est-ce qu'il y a une espèce de seuil comme ça?
Alors, Fabien Sintès, j'aurais envie de vous proposer un entretien.
Mais je veux bien
gratuit, personnalisé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne peux pas vous faire une réponse qui soit valable pour tout le monde.
Ok, bien sûr.
Ça dépend du parcours de chacun. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que plus on rachète des trimestres tardivement, plus le coût est élevé.
Bien sûr.
Mais il est élevé parce qu'il doit être... C'est pas aux autres de payer pour vous. Si vous me permettez, chacun paye le prix. Plus c'est tôt, c'est ce qu'on appelle la neutralité actuarielle, plus c'est tard, plus le coût est élevé. Après, l'intérêt pour chacun d'entre nous va dépendre de deux choses. Premier élément, quel est son parcours professionnel? Et est-ce que, au final, dans la phase finale de sa vie professionnelle, ces trimestres-là lui apportent quelque chose ou pas? Deuxième élément, et ça c'est vrai en termes de coûts, c'est vrai aussi en termes de régime fiscal. Et puis le deuxième élément, ça dépendra aussi, ça c'est donc le premier élément des critères personnels, deuxième élément, ça dépend aussi des paramètres applicables à sa génération au moment de son départ. Donc c'est là où je vais vous faire une réponse un peu normand, mon grand-père était normand, donc je le dis avec beaucoup de tendresse pour les normands, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Isabelle nous dit ceci, j'ai été en arrêt maladie pendant 3 mois, payé à 90% un peu avant de partir à la retraite, comme je suis fonctionnaire, la retraite est calculée sur les derniers mois. Ma question est donc, est-ce que ma retraite sera calculée tenant compte de mon salaire plein théorique ou de mon salaire perçu à 90%? Si elle est fonctionnaire, elle ne dépend pas de vous.
Alors si elle est fonctionnaire, elle ne dépend pas de moi, mais de mémoire, dans le système de la fonction publique, il y a des systèmes de surcotisation sur la base du temps partiel. Donc voilà. Mais là encore, pour Isabelle, moi je lui proposerais d'aller voir le simulateur. Simulateur Marel, M-A-R-E-L, qu'on peut trouver sur l'application mobile Mon Compte Retraite, et qu'elle voit l'impact de ces 90%, de cette quotité de ton travail à 90, quel est l'impact qu'elle a sur ses droits à retraite.
Françoise est avec nous. Bonsoir Françoise.
Bonsoir. Je suis médecin libérale.
Okay.
Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Oui. Très très bien.
Je cotise à la CARM, j'ai 59 ans, et durant ma carrière j'ai eu deux enfants, et j'aimerais savoir si ce fait-là me permet d'obtenir d'autres trimestres supplémentaires.
Merci beaucoup Françoise, la question des enfants ça revient extrêmement souvent.
Alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. En moyenne à 60 ans, on ne connaissait jusqu'alors que les enfants que dans un cas sur trois. Bon. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec les autres régimes de retraite.
On ne reconnaissait les enfants que dans un cas sur
trois. Non, pas ne reconnaissait, on ne connaissait. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, on ne faisait pas le lien entre l'arrivée de l'enfant et l'information à sa caisse de retraite. Okay. C'était juste un élément, l'information ne nous avait pas été transmise. Donc on a conduit avec les autres régimes de retraite deux opérations. Une première opération, c'est que progressivement l'INSEE nous transmet chaque année les naissances les plus récentes. Mais pour Françoise, comme pour beaucoup de personnes, je dirais, de la même génération, et je suis de la même génération, souvent, il faut s'assurer que les deux enfants qu'elle a pu avoir sont correctement connus du système de retraite, des régimes de retraite dans lesquels elle a cotisé. Et si ce n'est pas le cas, elle peut nous les déclarer.
Hein.
On a mis en place un système unique
pour déclarer ses enfants.
Il n'est pas trop tard. Jusqu'au dernier moment, on peut déclarer ses enfants. Et donc, elle pourra mesurer ainsi quel est l'impact de la déclaration de ses deux enfants. Donc, déjà, un premier élément, faire le point sur ses droits à la date d'aujourd'hui. Quelle est l'information qui est connue? Je renvoie sur et l'application mobile et sur un entretien si elle le veut, puisqu'on a de très bons contacts avec la CARMF. Et puis, deuxième élément, de pouvoir, si ce n'est pas le cas, déclarer le ou les deux enfants, si aucun des deux n'a été déclaré, pour pouvoir mesurer l'impact. Et elle le verra tout de suite sur le simulateur.
Voici Eric. J'ai effectué une objection de conscience à la place du service militaire. Dans mon bilan de carrière, ce n'est pas comptabilisé. J'ai contacté la CRAMCO locale, dit-il, qui m'a envoyé vers un site internet pour trouver l'information. Mais malgré toutes mes recherches, je ne trouve pas. Qu'est-ce que vous me proposez? Le service, ça compte.
Le service,
mais l'objection de conscience, c'est pareil?
Un service national, qu'il soit sous forme militaire ou sous forme d'une objection de conscience, compte, puisqu'on a donné... On a donné un moment de sa vie pour la nation. Après, ce qui est vrai, c'est que là, c'est ce que j'évoquais comme pour les enfants. Il y a un certain nombre de données qui, historiquement, n'avaient pas été renseignées au moment où le service a été effectué. Et donc, là encore, on travaille avec les collègues du régime général, et c'est eux qui sont en première ligne sur ces questions-là, pour récupérer de manière automatique les données sur le service national. Mais si ce n'est pas encore le cas, eh bien, s'il a conservé son attestation, qu'il fournisse l'attestation.
Il y a Françoise qui... c'est dommage, elle est partie, mais qui n'est pas sûre d'avoir eu sa réponse. Le problème, c'est qu'elle est partie, Françoise, et je ne sais pas du coup quelle était son interrogation. On est d'accord qu'on les déclare et qu'ils donnent droit au trimestre.
Exactement. Okay. Après, chaque régime de retraite a ses propres modes de valorisation. D'accord. Trimestre, c'est pour le régime général, pour la sécurité sociale. Et puis après, en fonction du moment où ses enfants sont nés, quel était son statut à l'époque?
On a Nathalie qui a 60 ans et qui dit qu'elle vient d'être licenciée après 35 ans de salariat. Sa durée d'indemnisation de chômage de 27 mois ne sera pas suffisante pour aller jusqu'à l'âge de sa retraite légale qui est pour elle à 63 ans. Y a-t-il des dispositifs d'aide pour faire le lien entre chômage et retraite légale? Ça sort de votre champ de compétences, cette question, François-Xavier Sellard.
Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que si elle a connu cette période-là, on ne peut que l'inciter à essayer de voir si avec les personnes de France Travail, est-ce qu'il n'y a pas aussi des possibilités de reprendre une formation qui lui permettrait aussi de pouvoir, à la fois... l'objectif de pouvoir retrouver un emploi, si elle le peut, hein. Et puis en tout cas, de faire le point sur toutes les situations possibles ou les solutions possibles qui puissent lui permettre d'aller jusqu'à son âge du taux plein.
Il y a Claire qui dit, j'ai une question très anecdotique, mais enfin, je souhaiterais savoir pourquoi et pour quelle raison la pension AGIRC est versée le premier du mois, tandis que la retraite principale est versée les 8 ou les 9 du mois.
Alors, c'est même encore un peu plus complexe que ça, mais c'est lié en fait à un mécanisme sous-jacent, c'est qu'à l'AGIRC Arco, nous n'avons pas un euro de dette. Mais 85 milliards de réserves. Mmh. Et je dis tout de suite, ce n'est pas une cagnotte, ce n'est pas un magot, c'est la propriété de tous les assurés du régime, mais ça permet, l'existence de ces réserves, permet que la retraite à AGIRC Arco qui est versée le premier du mois, mais c'est du début de mois, c'est plutôt même qu'un salaire. La retraite du régime général, elle est versée le 9 du mois suivant. Donc vous voyez... Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, donc normalement la retraite à AGIRC Arco au titre du mois de décembre a été versée aujourd'hui, alors qu'à la Sécurité sociale, la retraite du mois de décembre sera versée le 8 ou le 9 janvier.
Alors vous l'avez dit, hein, c'est pas un bas de laine, qu'est-ce que vous avez dit?
C'est pas une cagnotte, c'est pas un magot, parce qu'on nous a souvent dit ça.
Sauf que vous êtes à l'équilibre. Comment vous faites pour être à l'équilibre? Parce qu'après tout, vous avez un système contributif et solidaire qui fonctionne exactement comme la Sécu, basiquement.
Exactement.
Donc qu'est-ce qui fait que vous, à AGIRC Arco, vous êtes à l'équilibre? Est-ce que c'est simplement parce qu'on parle des salariés du privé? Que les salariés du privé gagnent un peu plus d'argent, donc plus de cotisations. Est-ce que c'est ça la raison ou pas?
Non, la raison fondamentale, c'est la gouvernance de l'AGIRC Arco. La gouvernance de l'AGIRC Arco, ce sont les partenaires sociaux. C'est les organisations patronales et syndicales.
Vous vous souvenez qu'on entendait ça dans les manifs, hein?
Tout à fait.
On disait qu'il faudrait que tout le régime soit géré par les partenaires sociaux et tout le monde serait bénéficiaire.
À l'AGIRC Arco, depuis près de 80 ans, on a prohibé le recours à la dette. On n'a pas un euro de dette. Et pourquoi? Parce que le premier mot d'ordre de l'AGIRC Arco, alors que nous sommes en répartition, nous sommes un régime solidaire, nous sommes un régime contributif, c'est garantir le paiement des retraites à chaque génération sans peser sur les générations futures. Le fait d'avoir des réserves, c'est un élément financier pour garantir le paiement des retraites. Mais c'est aussi un élément de confiance.
Mais est-ce que ça veut dire que vous avez compris un truc que le régime général n'a pas compris sérieusement?
En tout cas, ce que je sais, c'est que les partenaires sociaux veulent, pour incarner la confiance de la retraite par répartition, c'était la question tout à l'heure de Clément, quand il disait « je veux valider ma période d'apprentissage ». Ils sont intimement persuadé que pour pouvoir consolider la confiance de la retraite par répartition, on a besoin d'éléments tangibles et concrets. Donc les réserves, c'est un enjeu financier pour amortir les aléas de l'économie et de la démographie, mais c'est aussi un enjeu pour incarner la promesse de la retraite par répartition, pour pouvoir dire le fait d'avoir des réserves et sur un horizon de 15 ans d'avoir au moins 6 mois d'allocation réserve, c'est aussi la garantie qu'on donne à la génération suivante d'avoir une retraite par répartition. Donc vous voyez, cet élément qui peut apparaître comme un élément technique, un élément financier, c'est fondamentalement l'incarnation d'une promesse, une preuve tangible et concrète.
Parce que je le disais, il y a probablement beaucoup de gens qui nous écoutent et qui l'ignorent. Pour certains, l'AGIRC-ARRCO représente 50 à 60% de leur retraite. Il y a un plafond pour ce qui est de la retraite du régime général à 1932 euros bruts, c'est ça ?
Alors, il fait 1932 euros de brut, c'est-à-dire qu'on cotise jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a été créé comme cela en 1947. Quand les fondateurs de la Sécurité sociale ont dit au syndicat de cadres de l'époque, nous, on n'ira pas au-delà du plafond de la Sécurité sociale. Et c'est comme ça qu'on a été créé, et vous avez raison de dire que pour un cadre, la retraite à Gircarco, pour un cadre de quelqu'un qui a une belle vie professionnelle, la retraite à Gircarco peut être sa retraite principale. Parce qu'effectivement, il va s'acquérir des droits, même jusqu'à 8 plafonds de la Sécurité sociale. C'est pour ça que 96% des Français, c'est pour ça que de l'ouvrier au dirigeant, la quasi-totalité des concitoyens de notre pays, la quasi-totalité de ceux qui ont été salariés dans le secteur privé, ont des droits à l'AGIRC-ARRCO.
Tatiana est là. Bonsoir Tatiana.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Tatiana.
Alors, j'ai une question concernant ma retraite. Bon, je ne m'occupe pas trop pour le moment, mais il y a de noter que je suis carrière longue. Donc, je voulais savoir quel était en fait l'avantage, l'inconvénient et aussi le lien avec ce qu'on appelait la retraite progressive. Voilà.
Merci Tatiana. Là aussi, on est un peu au bord de votre champ de compétences, François.
Je vais quand même essayer d'apporter des réponses à Tatiana. Alors, en fait, on est sur deux modalités de départ en retraite différentes. Carrière longue, pour pouvoir être carrière longue, il faut avoir validé un certain nombre de trimestres avant 20 ans et 21 ans et avoir une durée de cotisation complète, globalement, à 60 et quelques, 61, 62, en fonction de sa durée de cotisation. Et ça permet de partir un peu plus tôt en retraite par rapport aux données de sa génération. La retraite progressive, ça vous permet de partir en retraite tout en gardant un pied dans l'activité professionnelle. C'est une forme de retraite à temps partiel. C'est une forme de retraite à temps partiel. Donc les deux, les deux sont possibles. Après, ça dépend vraiment beaucoup pour Tatiana, comment elle conçoit la fin de sa vie professionnelle. Est-ce qu'elle veut garder un pied dans le monde du travail ? Est-ce qu'elle veut donc une forme de temps partiel de fin de carrière ? Ce que peut lui permettre la retraite progressive, mais il faut qu'elle se mette d'accord avec son employeur pour voir comment elle peut l'aider. Ou est-ce qu'elle veut plutôt interrompre son activité professionnelle en une seule fois plus tôt ? Les deux outils existent, les deux modalités existent, mais effectivement, ça dépendra aussi beaucoup de, par rapport à son parcours professionnel, à son emploi, comment est-ce qu'elle veut exercer sa dernière partie de cette vie professionnelle.
Je signale que l'appli est en train de bugger, c'est ce que nous dit un auditeur là, parce qu'évidemment tout le monde s'est mis dessus quand vous l'avez annoncé. Donc voilà, soyez un peu patient, ça viendra. Voici Claude qui est avec nous. Bonsoir Claude.
Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Moi, j'aurais voulu avoir des informations en ce qui concerne la reversion. Moi, je suis à la retraite déjà depuis quelques temps. J'ai pas de soucis. Mon mari est en bonne santé. Mais c'est une question que je me pose. Je sais que moi, personnellement, je suis fonctionnaire. J'ai été fonctionnaire. Mon mari était dans le privé, donc je voudrais comprendre. J'ai pas réussi à trouver d'informations très précises à ce sujet.
Merci pour votre question. Merci beaucoup, François-Xavier. Est-ce que ça vous concerne, ça ?
Bien sûr.
Vous avez votre à dire sur reversion, par reversion, etc.
Bien sûr. Alors, madame, vous avez raison d'évoquer ce sujet très tranquillement, très sereinement aujourd'hui. Dans 90% des cas, les bénéficiaires de la pension de reversion sont des dames, sont des femmes, parce qu'il reste toujours un écart d'espérance de vie en faveur des dames.
C'est à ça que ça a servi quand on l'a inventé, la pension de reversion, c'est à ça que ça a servi quand on l'a inventé, la pension de reversion.
Là où vous avez raison, c'est que les règles, et ça peut parfois paraître complexe, sont différentes d'un régime à l'autre. À l'AGIRC-ARRCO, la pension de réversion est sous condition de non-remariage. Pour le dire différemment, on vous versera, et on l'espère le plus tard possible, madame, parce qu'on espère que votre mari vivra avec vous le plus longtemps possible. On vous versera alors 60% de sa pension, à AGIRC-ARRCO. Bon. Au régime général, la pension de réversion est sous condition de ressources, donc de ressources et de patrimoine. Donc au moment ou comment dirais-je, où vous serez toute seule, dans ce cas-là, les collègues du régime général regarderont votre situation. Mais ce qui est vrai, c'est un point sur lequel on essaye, avec tact et délicatesse, de permettre à chacun, et comme vous avez raison de poser la question, parce que le jour où on perd son conjoint, bah c'est un grand vide dans une vie personnelle, et donc d'avoir pu, tranquillement, sereinement, avoir les idées claires avant, pour que le jour où on a créé cette, on doit faire face à cette émotion majeure, eh bien, on arrive à pouvoir se dire, allez, administrativement, je sais où je vais.
On en reparle, non, de la pension de réversion. Est-ce que oui ou non? Est-ce qu'il faut la maintenir? Est-ce qu'il faut abaisser les seuils, les plafonds, etc. Pareil pour les droits conjugaux. Il y a beaucoup de choses qui sont remises. Est-ce qu'il faudrait remettre un peu de l'ordre là-dedans?
Deux éléments, peut-être deux éléments pour le préciser. Aujourd'hui, il y a encore des écarts de retraite homme-femme.
Ouais.
Bon, la pension de réversion permet de réduire de 50% l'écart de retraite homme-femme. Donc vous voyez que ce rôle de pension de réversion, c'est un outil de réduction des inégalités de retraite entre les femmes et les hommes.
Mm-hmm.
Premier point. Le deuxième élément, souvent, du fait de l'écart d'espérance de vie que j'évoquais, la pension de réversion, c'est ce qui permet aussi de compenser des choix de vie qui ont été faits à deux. On sait que dans un couple, on fait des choix de vie à deux, et que souvent, pour les raisons que je viens d'évoquer, la pension de réversion, parce qu'elle bénéficie aux dames, permet de compenser ces éléments-là. Puis ces troisième éléments, c'est un point souvent qui n'est pas connu. Pourquoi la pension de réversion, à la Tchakarko, elle est versée sous condition de non-remariage et pas sous condition de PACS? Parce que dans le mariage, il y a une obligation d'assistance alimentaire qui est plus forte que dans le PACS.
Mmh.
Et donc c'est pour cela aussi qu'il y a une contrepartie qui n'est pas la même. Mmh. Voilà l'élément. Puis maintenant, le mariage est ouvert à tous.
Ouais.
Donc cette question-là est aussi un point. Mais c'est régulièrement
un
sujet qui fait l'objet.
Il y a un petit côté désuet quand même, l'idée d'être obligé d'être marié.
Mais parce que la question, la conséquence n'est pas la même aussi. Et la fin de l'union n'est pas la même aussi.
Mmh.
Dans le mariage, il faut faire intervenir un tiers, ce qui n'est pas le cas dans le PACS ou dans le concubinage.
Rapidement, on a Sylvia par mail qui dit « Depuis très jeune, j'ai travaillé avec mes parents commerçants pendant toutes les vacances scolaires et je n'étais pas déclarée. Est-ce que ce travail avec mes parents peut compter pour la retraite au titre de la durée, pas de la pension évidemment. Et si oui, quelle preuve et quel papier doit-on fournir? Ou est-ce que c'est trop tard pour Sylvain? On ne peut pas lui suggérer de faire des fiches de paye antidatées, on est d'accord.
Exactement. Je crains, comment dirais-je, que pour elle, si effectivement il n'y a pas eu de déclaration, s'il n'y a pas eu, donc pas de cotisation, on ne puisse pas lui attribuer des droits pour ces périodes-là. C'est là où l'apprentissage, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Clément, est une bonne chose. L'apprentissage, ça permet d'acquérir une formation, d'acquérir une rémunération et d'acquérir des futurs droits à retraite.
8 secondes, parce qu'on a fini. Je me demandais si vous aviez plus d'appels et plus de questionnements depuis les histoires de réforme des retraites, ou est-ce que finalement, la politique sur la réforme est décorrélée de la recherche sur la retraite et ses années?
C'est effectivement souvent une des grandes surprises des journalistes, si vous me permettez, parce qu'en fait, les gens qui viennent nous voir ne nous parlent jamais de l'actualité.
Vous voulez dire qu'on vous pose tous les mêmes questions? Je n'en crois rien.
C'est peut-être la sagesse des vieilles troupes qui commence à dire cela, mais souvent on s'imagine que l'actualité a un impact. En fait, les personnes qui viennent nous voir veulent qu'on leur parle d'eux, non pas de la réforme, de la retraite, mais de leur retraite.
Ouais.
Parlez-moi de moi.
Et ben voilà, c'est un peu la définition du téléphone sonne. François-Xavier Celeré, je vous remercie beaucoup, directeur général de l'ARJIC Arco. Vous reviendrez quand vous voulez.